zambi la samirana. Francine Kanyany.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'écouter Radio Inzambagate Kakawe et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité du 18 au 24 janvier 2021. Commençons par l'élection de Révérien Dikuliyo à la tête du parti CNDD-FDD. C'était lors d'un congrès extraordinaire tenu ce dimanche à Gitega, la capitale politique. Cet ancien président du Sénat succède à Évariste Ndayishimiye, élu à la tête du pays en mai dernier. Sur son compte Twitter, le nouveau secrétaire général du parti présidentiel a remercié tous les Bagumyawanga qui ont placé leur confiance en lui et promis de ne pas les décevoir. Suite de cette rétro avec l'actualité judiciaire, une femme accusée d'avoir participé au meurtre de son mari est détenue à la prison centrale de Mimba à Bujumbura depuis jeudi dernier. Krista Kaneza y a été transférée après une audition au parquet de Muha. C'est toujours en mairie de Bujumbura. Elle avait été interpellée mardi par la police judiciaire. Les défenseurs des droits de l'homme et des proches de la femme arrêtée accusent la police de chercher un bouc émissaire. Ils réclament de vraies enquêtes pour trouver des vrais criminels. Eddie Claude Ninazwe.
La femme arrêtée ce mardi est la veuve de Thierry Kubimana, tuée la nuit du 24 au 25 novembre en 2020. À son domicile. Krista Kaneza, la veuve, est accusée d'être complice avec les assassins de son mari, selon la police judiciaire qui la coffrait après interrogatoire. Pacifique Enoise, défenseur des droits de l'homme et promoteur du programme d'Ondesa, indique que les assassins de Thierry Kubimana sont connus mais bénéficient d'une protection, implique la veuve Krista Kaneza, c'est vouloir torpiller les vraies pistes des enquêtes qu'il faudrait mener. Pacifique Enoise.
Après avoir tiré sur Thierry Kubimana dans la nuit du 25 novembre 2020, les assassins ont oublié un téléphone à la résidence de la victime. Ce téléphone contenait un nombre important d'indications sur son propriétaire. Il y avait la photo du propriétaire. Et nous espérions que les appels, les messages précédant l'attaque allaient permettre à la police de mener rapidement l'enquête et de trouver les auteurs. Malheureusement et fort curieusement, pendant plus d'un mois et demi, la police semblait n'être pas intéressée à retrouver rapidement le propriétaire du téléphone.
Le matin de son mardi, le porte-parole du ministère de la Sécurité a présenté à la télévision nationale se pointer du doigt comme étant les auteurs de l'assassinat en complicité avec la veuve Krista Kaneza. Les proches de la famille rejettent des hypothèses de la police et demandent la libération de la veuve pour s'occuper de son bébé de moins de 5 mois lui laissé par son mari assassiné.
Pas du tout le lien avec la veuve de Thierry, donc on comprend pour rien du tout. Donc on demande à l'État burundais de penser à la jeune veuve, elle est très jeune, donc elle allait. Donc on peut demander à ce qu'il y ait une personne qui se porte garant, disons que si on pourrait ne s'enfuit pas.
La police judiciaire a d'autres fins visées pour ne pas mener à bon port les enquêtes liées à cet assassinat. Des pistes et indices criminels restent inexploités selon Pacifique Nininazwe.
Les choses ont changé très rapidement à la fin de la semaine dernière, lorsque l'officier chargé des enquêtes a donné rendez-vous à un des proches de la victime, un rendez-vous où il a amené un homme dans son véhicule, un homme qui avouait qu'il avait tué Thierry Kubimana. Ceci est surprenant. Comment se fait-il qu'un officier de police se permette de trimballer un criminel de son niveau et que ce criminel est un homme qui avoue spontanément, aisément avoir commis un meurtre? Et pourquoi cet officier avait besoin de rencontrer des membres de la famille de la victime dans un lieu qui n'est pas un bureau de la police? Quelles étaient les intentions derrière cet acte?
Thierry Kubimana a été tué âgé de 29 ans et son épouse est âgée de 18 ans. Thierry Kubimana travaillait dans une société minière d'origine russe avant qu'il aille travailler pour son propre compte.
Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité Inamahoro condamne ce qu'il qualifie de persécution à l'endroit de cette femme. On écoute Lise Valichako, membre de ce mouvement.
Nous sommes profondément choqués par l'incarcération de Krista Kaneza, car non seulement son incarcération dépasse notre entendement, mais aussi, au vu de la loi, une femme qui allait un enfant de moins de 6 mois ne peut pas être incarcérée si elle ne constitue pas une entrave à la sécurité publique. En quoi cette jeune maman est-elle une entrave à la sécurité publique? Nous dénonçons ainsi cette justice qui viole le principe de liberté et de la présomption de l'innocence. Par ailleurs, nous nous étonnons du fait que la police s'empresse de l'incriminer alors que la justice ne l'a pas encore condamnée. Nous voyons cela comme une façon d'influencer les décisions judiciaires. Ainsi, nous demandons à la police de se ressaisir et à la justice de garder son indépendance. Nous constatons beaucoup d'irrégularités et de contradictions dans ce dossier que la justice devrait élucider et ainsi rendre justice à Christa.
Des propos recueillis par Bella Gloria Kinore. Dans un communiqué publié vendredi, les organisations de la société civile burundaise font remarquer que le comportement de la police dans ce dossier est de nature à influencer la décision de la justice. Maître Dieudonné Bachelet-Cizé s'exprime au nom de ces associations.
Nous sommes encore au stade préjuridictionnel. C'est une façon d'influencer la décision judiciaire à intervenir et des agissements de la police qui sont contraires à l'article 40 de la Constitution qui consacre la présomption d'innocence. Il s'avère donc que ce genre de comportement d'une police qui n'agit pas dans l'intérêt de la population semble viser à jeter de la poudre aux yeux de l'opinion pour couvrir probablement de véritables coupables. C'est pour cette raison que nous lançons un appel vibrant aux institutions judiciaires et gouvernementales au Burundi pour que on puisse laisser la liberté à cette dame encore en deuil qui allait un jeune bébé, afin que les enquêtes puissent continuer au moment où elle se trouve dans son foyer. Et nous appelons aussi à la libération de ces membres de la famille d'une personne qui était recherchée à Lomongue, qui par ailleurs a été tuée récemment, surtout que à Lomongue même, dans la commune de Burambi, la police s'est rendue chef d'une exécution extrajudiciaire. Donc nous dénonçons ces agissements de la police et nous demandons à ce que ces personnes arrêtées injustement puissent être laissées en liberté sans condition.
Maître Dieudonné Bachelet-Cizé, des propos recueillis par Désiré Hatungimana. Et dans le sud du pays, plus précisément en province Lomongue, un habitant de la commune Burambi a été tué à bout portant le soir de lundi par la police selon des témoins. La police venait de passer 5 jours en garde à vue et venait de révéler à la police une cache d'armes qui se trouvait dans la localité de Mwiri de la zone Malambia, c'est toujours en commune Burambi. Bon fils Niongere.
La victime est le nommé Protène Yungeko, ancien militaire ex-FAB habitant la colline Gitaramuka de la commune Burambi. Il avait été arrêté par la police jeudi de la semaine passée dans la localité d'Okiganza, en zone Malambia. Il aurait été horriblement torturé pour révéler où se serait caché Fekome Niyongabo. Des sources de la radio Nzambaga Tekakawe au sein de la police à Lomongue indiquent qu'à partir du répertoire de son téléphone, la police a pu découvrir où s'était caché Fekome Niyongabo. Ce dernier a été tué samedi de la semaine passée dans une opération conjointe de la police et de l'armée dans la localité de Mikinya de la sous-colline Nombre. Les mêmes sources font savoir que Proté Niyungeko aurait continué à être torturé par la police pour des aveux sur des personnes arrêtées et probablement pour révéler la cache d'armes que le groupe de Fekome Niyongabo utiliserait. Un des policiers qui a requis l'anonymat a révélé à la radio Nzambaga Tekakawe que Proté Niyungeko avait reçu un coup de poignard d'une baïonnette au niveau des côtes et qui est resté. Les tortionnaires l'a remué de temps à autre pour lui forcer à accepter des aveux. C'est alors le soir de ce lundi qu'il a été fusillé par des éléments de la police après avoir révélé la cache d'armes de 6 fusils de type Kalachnikov dans la localité de Mwiri de la zone Maranze. La police a justifié son assassinat qu'il avait tenté de s'évader. Une justification qui n'est pourtant pas partagée par tous les policiers. Certains révèlent que vu son état, après 5 jours de torture, il n'était plus en mesure de fuir, en faisant savoir également moment qu'il était menotté. Les habitants de Maranvia avaient révélé pourtant leurs inquiétudes sur la sécurité des personnalités. Ils s'inquiétaient également du fait que les familiers des personnes qui sont accusées d'appartenir aux groupes armés sont victimes de persécutions alors que le code pénal burundais stipule que la responsabilité pénale est individuelle. Dans une réunion de sécurité tenue à Maranvia ce mardi, le gouverneur de province Arumonge Consolateur Nitunga a indiqué que le groupe armé qui se met l'insécurité dans la commune Burambi et ses environs a été démantelé et que même leurs fusils ont été saisis, exhortant toutefois la population de Maranvia à changer de mentalité.
Que faut-il savoir sur les masques de protection contre la COVID-19? Le masque chirurgical dit anti-projection, il évite la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque et protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises. Masques transparents, ils sont destinés aux personnes sourdes ou souffrant d'un handicap cognitif qui ont besoin de décrypter les expressions du visage pour comprendre l'information. Le masque en tissu fait maison. Ils ne sont pas destinés à protéger la personne qui le porte, mais les personnes alentour. Ces derniers sont de différentes sortes et il faut faire attention aux tissus à utiliser. Éviter des tissus en dentelle ou avec des trous, mais aussi éviter d'utiliser des objets inappropriés à la place des masques tels que des papiers, des bouteilles en plastique, des feuilles de bananier et d'autres.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Dix élèves de l'école d'excellence de Moussinzira, ex-Athénée de Gitega, avaient été testés positifs au COVID-19 jusqu'à vendredi. Une situation qui préoccupe les enseignants et les élèves à ce sujet. Les professionnels de la santé estiment que dans de tels cas, il devrait y avoir un dépistage de masse pour isoler ceux qui sont diagnostiqués positifs dans le but de limiter la propagation. Révérien Wadikamu.
Les 10 élèves contaminés résultent des tests qu'ils ont subis en tant que personne contact d'un élève de la première séance qui avait été testé positif au coronavirus le lendemain. Selon des sources parmi les élèves de l'école d'excellence de Moussinzira, les enseignants commencent à manifester une certaine réticence de dispenser les cours dans cette classe de la première séance. Ces enseignants estiment qu'ils s'exposent au risque d'être contaminés parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas été testés. Ces élèves de l'autre côté manifestent un sentiment de peur parce qu'il n'y a jamais eu de test aux élèves soupçonnés d'avoir été en contact avec les malades. Ces inquiétudes sont fondées selon le docteur Cyril Naumagazé qui précise qu'il devait y avoir des tests qui viseraient à isoler ceux déjà contaminés pour protéger ceux qui sont encore sains.
Des écoles qui connaissent des surpeuplements au niveau des classes être un problème pour la prévention. Mais lorsque, évidemment, il y a quelqu'un qui est déjà atteint de ce virus, on doit tout faire pour que les autres ne puissent pas être contaminés, en faisant le screening pour les autres qui ont été en contact, mais aussi en séparant ceux qui sont déjà atteints et ceux qui ne sont pas encore atteints. Tout en sachant qu'il y a des porteurs qui ne développent pas de symptômes, et ce sont ces gens-là qui continuent à propager la maladie sans le savoir, et aussi sans que l'autre se rende compte, peut ne pas tousser. Il peut ne pas avoir de la grippe, mais il peut être porteur.
Ces 10 élèves sont d'une classe de 30 élèves de sciences. L'établissement de l'école d'excellence compte au total plus de 290 élèves. La direction de l'école, de son côté, dit qu'elle reste préoccupée par cette situation et qu'elle fait tout pour mettre en place des mesures pour limiter la propagation. L'école d'excellence de Moussinzira connaît pareille situation qu'aux autres établissements scolaires comme le petit séminaire de Kanyosha, école fondamentale de Luziba 1, lycée de Moaro et certaines écoles de la province de Makamba.
Révérien Badikami. C'est la fin de cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.